À consulter les catalogues des bibliothèques, et ils sont assez riches à ce sujet. Il apparaît que le 19e siècle, plutôt la fin de ce siècle, le dernier tiers, a été une période extrêmement propice à l'émergence des femmes auteurs. Et le catalogue de la bibliothèque où nous nous trouvons ne fait pas exception, puisque parmi les romanciers, mais aussi les poètes répertoriés, les auteurs féminins constituent une part non négligeable. Parmi de nombreux titres que j'ai pu repérer, quelques gloires féminines qui ont bénéficié à la fin du siècle d'un éclairage particulier, d'un véritable engouement public, d'une attention aussi de la part de la critique. On peut citer quelques noms, Jean Berthe-Roy, Gibbe, Daniel Le Sueur, Marcel Tiner, Lucie de la rue Mardrus, Colette Hivert, autant de noms aujourd'hui oubliés, sauf par des spécialistes ou des curieux, évidemment, mais qui témoignent de cette entrée massive des femmes en littérature vers la fin du siècle. Alors ce phénomène apparaît justement à la fin du siècle comme un phénomène collectif, un fait social. C'est ainsi que l'analyse d'ailleurs Paul Fla en 1909, l'auteur d'un essai intitulé « Nos femmes de lettres ». Et ces essais commencent à pulluler à la fin du siècle pour prendre la mesure justement de ce phénomène d'introduction des femmes dans le milieu littéraire. Alors face à cette explosion, parce qu'on en parle souvent en ces termes, c'est peut-être étonnant aujourd'hui puisqu'on n'a pas gardé souvenir de tellement de noms, face à cette explosion de littérature féminine, qui a laissé donc assez peu de traces dans la mémoire littéraire, eh bien on peut constater deux grands types de réactions. Alors la première réaction, c'est le rejet, entaché d'ailleurs d'un mépris non dissimulé pour ces femmes auteurs, voire d'une féroce misogynie. C'est la poursuite de la croisade contre les bas bleus entamée dès le début du siècle, et qui témoigne d'une véritable résistance des écrivains qui voient dans l'entrée des femmes dans le monde des lettres, dans le milieu littéraire, une menace, carrément une menace, et une remise en question aussi de leur monopole. Alors une résistance qui est aussi nourrie de tas de fantasmes, de craintes par rapport à la femme, au moment où justement la conquête des lettres par celles qu'on appelle alors les Amazones se revendique justement des avancées du féminisme, donc dans ces dernières décennies du 19e siècle. Avancées du féminisme qui marque aussi un changement dans les rapports masculins-féminins et une sorte de mise en crise de l'identité masculine, comme l'a analysé, c'est bien dans un essai, Annelise Maug. Alors pour vous donner un petit exemple de réaction de rejet vis-à-vis de l'intrusion massive de ces femmes auteurs, alors j'ai pris un extrait qui vient d'une revue belge, puisque la Belgique a aussi vécu le même phénomène. Alors voilà ce que dit un auteur en 1886, « Pas de moi qu'elle n'éjacule quelques nouveaux livres », et il critique, je cite, « cette avalanche de prose poudrerisée, de vers qui pue la confection et l'armoie avec effort, quand ce ne sont pas de petites cochonneries à l'usage des vieux messieurs pour qui la main des femmes a toujours de pervers attraits ». Un exemple, mais ils sont très nombreux, c'est un des plus violents quand même que j'ai choisi. Alors tous les critiques ne sont pas aussi acerbes avec les femmes auteurs, d'autres au contraire, journalistes, essayistes, se montrent plutôt bienveillants, voire indulgents vis-à-vis de leur production. Ils semblent plaider pour une sorte de reconnaissance des femmes de lettres, mais si on y regarde de plus près, c'est cependant assez ambivalent comme type d'attitude, puisque cette soi-disant bienveillance aboutit in fine à la marginalisation et aussi à l'exclusion des femmes du champ de la création littéraire, donc une attitude qui semble bienveillante, mais qui est un peu entachée d'une sorte de galanterie associée à de la condescendance également. C'est l'attitude d'un auteur qui s'appelle Jean de Bonnefond, dans son ouvrage au titre tout à fait révélateur, évocateur, La Corbeille des Roses, ou Les Dames de Lettres, 1909, donc même année que l'autre essai cité. Alors cet auteur, prétendant révéler, éclairer le talent de ces femmes de lettres, contribue en fait à les reléguer, à les repousser aux marges du champ littéraire. Car en fait, il ne les juge pas en usant de critères qui ont cours dans le domaine de la littérature qu'on pourrait appeler légitime. Alors ce sont moins justement les qualités esthétiques, littéraires qui intéressent l'auteur chez ces femmes que leur physique, leur beauté physique, les détails de leur vie privée ou leur aptitude à incarner dans leur vers ou dans leur prose le féminin avec un grand F. Ainsi comprend-on mieux certains gros succès littéraires de la fin du siècle qui étaient plus dus aux personnalités en vue de certaines de ces femmes, souvent issues des milieux de l'aristocratie, très introduites dans les milieux, les réseaux mondains aussi, comme Anna de Noailles, pour citer l'une des plus célèbres, mais dont la célébrité ne se mesurait donc pas toujours en termes de valeur littéraire. Donc sous couvert de reconnaissance, ce type de recueil de femmes illustres, on peut les appeler comme ça, ça continue une tradition déjà séculaire, contribue d'une certaine façon à entériner l'exclusion des femmes du domaine de la littérature sérieuse en renforçant ce qu'on pourrait appeler une sorte de sexuation des secteurs d'activité littéraire. Puisque aux femmes qui sont associées à l'intériorité, à l'intimité, on va réserver des genres littéraires mineurs où peuvent s'exprimer leurs qualités, la sensibilité, l'intuition, l'imagination, le sentiment, donc du roman sentimental, des lettres, de la poésie religieuse et surtout la littérature enfantine. Ce domaine leur est volontiers accordé. Et aux hommes qui, eux, sont plutôt tournés vers l'extérieur, vers l'action publique, les genres majeurs auxquels leur donnerait accès leur qualité virile, entre guillemets, raison, intelligence, puissance, profondeur, donc l'histoire, la science, le roman qui a des ambitions littéraires, le roman sérieux, et l'expérimentation formelle aussi. Alors cette polarisation du champ littéraire au profit des hommes, donc, se vérifie aussi dans les choix de carrière qu'ont fait souvent les femmes auteurs qui ont justement accepté ou préféré investir dans les genres qui leur étaient, entre guillemets, naturellement réservés, prédestinés, ou alors finalement les genres délaissés par les hommes, laissés vacants par les hommes. Donc d'une certaine façon, elles se conformaient à l'horizon d'attente qui avait été défini pour elles par la doxa masculine. Alors cependant, il faut un petit peu nuancer, les parcours de ces femmes auteurs étaient moins homogènes que cette distribution des rôles pourrait le laisser croire, puisque de nombreuses femmes se sont véritablement essayées à plusieurs genres littéraires, voire à presque tous les genres littéraires, et ont opéré aussi des reconversions au cours de leur carrière en fonction des chances de succès, en fonction des rencontres qu'elles ont faites dans les milieux littéraires, et parfois en raison d'événements familiaux. Un divorce, par exemple, peut réorienter une carrière vers des genres plus rentables sur le plan financier. Alors reste que, évidemment, l'enfermement des femmes auteurs dans cette catégorie littérature féminine apparaît quand même comme une sorte de ghettoisation ou de neutralisation de ces femmes, puisque les laisser s'exprimer dans des genres qui ne comptent pas, au fond, c'est les tenir à l'écart des grands débats littéraires de leur temps et aussi des lieux où la littérature moderne se fait, se discute, mais aussi s'organise et se transmet. Ainsi, on peut noter qu'hormis Juliette Adam, qui était très célèbre pour son salon littéraire, pour sa nouvelle revue, hormis cette femme-là, eh bien, aucune femme, par exemple, n'est invitée à répondre aux questions du journaliste Jules Luret dans son enquête, sa grande enquête sur l'évolution littéraire, qui fait en fait le point sur les grands débats du moment, où s'affrontent pour acquérir une position dominante le naturalisme, le symbolisme, le roman psychologique. Donc c'est la seule femme qui est présente, et encore il faut signaler qu'elle est exclue des catégories dominantes pour être placée parmi les indépendants, en fait c'est la catégorie fourre-tout, où se trouvent les auteurs à l'identité esthétique un petit peu problématique, les inclassables en fait. Donc les femmes sont absentes des études, des critiques, des interviews, des articles qui se font écho des grands débats qui agitent le champ littéraire, des révolutions en cours, et les études qui leur sont consacrées, qui prennent acte de leur existence littéraire, les enferment dans une catégorie à part, sans prise sur les évolutions littéraires, et où finalement les valeurs artistiques n'ont pas réellement cours. Cette mise à l'écart du champ de la littérature légitime, quand il ne s'agit pas d'un refus ou d'une négation pure et simple, a sans doute contribué à ce phénomène d'occultation de la production féminine dans les histoires littéraires. Une histoire littéraire aussi, qu'il faut rappeler, a été écrite principalement par des hommes. Puisqu'il faut ajouter aussi que pendant très longtemps, les instances de légitimation, les instances de consécration de la vie littéraire sont restées aux mains des hommes. Donc la presse, les académies, les sociétés littéraires, les comités éditoriaux ont longtemps été des bastions imprenables pour les femmes, à quelques exceptions près, évidemment. Si bien que grâce à la montée en puissance des mouvements féministes à la fin du siècle, eh bien de nombreuses femmes ont cherché à créer leurs propres instances de consécration, leurs propres prix littéraires, par exemple, plutôt que d'essayer de forcer les institutions en place. Enfin, il est vrai que les modes d'organisation et de fonctionnement de la vie littéraire à l'époque ne favorisaient pas toujours la participation des femmes, puisque si une femme, dans la continuité de la tradition des siècles précédents, pouvait jouer un rôle souterrain en tenant un salon, en accueillant des écrivains dans son salon, il était beaucoup plus difficile pour elle de s'introduire dans des lieux masculins où s'exerçait un véritable pouvoir littéraire, comme les cercles, les clubs ou encore la rédaction d'un journal. Alors, il y a quand même des femmes, évidemment, qui ont activement participé à la presse, qui ont aussi fondé des journaux, Mais il faut difficilement imaginer une femme, par exemple, aller se battre en duel, comme c'était évidemment assez courant à l'époque, quand elle était offensée ou quand elle-même avait critiqué quelqu'un de façon assez violente. Et en général, dans ces cas-là, c'était au mari de monter au créneau pour aller défendre l'honneur de sa femme. Il y en a pas mal qui ont dû se plier à cette obligation-là. Donc on peut imaginer que l'intrusion des femmes dans des lieux traditionnellement masculins a contribué à en bouleverser parfois aussi les modes de sociabilité, les rites, l'organisation. Alors les femmes semblent aussi avoir été assez absentes des groupes littéraires, des grands mouvements littéraires, des écoles, de ce qu'on peut appeler les écoles, ou alors du moins leur présence n'a pas été jugée significative par la postérité. Et si elles l'ont été d'ailleurs présentes dans ces mouvements, ces groupes littéraires qui organisaient aussi leurs propres mécanismes d'affiliation, de reproduction, de transmission, ne leur ont pas réservé une place importante dans leurs manifestes, dans leurs textes programmatiques, dans leurs souvenirs ou dans tous ces mémoires de la vie littéraire qui contribuent justement à assurer la transmission, la postérité des innovations littéraires et à léguer l'héritage des avant-gardes également. Donc on n'a pas gardé trace, par exemple, d'une femme qui aurait joué le rôle de chef de file dans un mouvement ou qui aurait été la promotrice d'une invention littéraire. Et d'ailleurs, souvent, les tentatives des femmes pour participer activement à un mouvement littéraire d'avant-garde s'est soldée par un échec. Donc un mouvement d'avant-garde porteur d'une innovation littéraire. Et celles qui ont voulu le faire ont souvent suscité, occasionné une levée de bouclier. C'est le cas d'une poétesse, Marie Krzyzinska, que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, un colloque va lui être consacré l'année prochaine pour célébrer le centenaire de sa mort. Marie Krzyzinska, d'origine polonaise, donc, a été assez bien tolérée dans tous les petits cénacles décadents. Bon, elle participait aux soirées du chat noir, par exemple, mais elle a été violemment rejetée par les symbolistes au moment où elle a voulu revendiquer l'invention du vers libre. Donc là, il n'était plus question de la tolérer, parce qu'elle touchait finalement à un enjeu majeur des débats littéraires de l'époque. Et là, il n'était pas question de laisser à une femme la place de maître, d'où la mise en place vraiment d'une sorte de campagne de discrédit vis-à-vis de cette poétesse. Donc on a l'impression que là où les enjeux en termes de légitimité littéraire sont importants, et la concurrence féroce, justement, entre écrivains, les femmes partent avec une sorte de handicap dans ce qu'on pourrait appeler la course aux honneurs. Et c'est un phénomène qui est également, je pense, perceptible dans le domaine des beaux-arts, où, comme l'a bien montré Marie-Jo Bonnet dans un essai tout récent, les femmes artistes ont aussi été tenues à l'écart de l'avant-garde. Alors, aussi le domaine de l'expérimentation formelle, l'expérimentation poétique, comme dans cet exemple sur le vers libre, donc a été dans les années 1880-1890 une sorte de chasse gardée dont les femmes furent exclues, et bien le domaine du roman expérimental, lancé par Zola en 1880, semble n'avoir pas toléré non plus énormément de disciples du sexe faible. Alors, si bien que je me suis livrée aussi à une petite expérience en lançant une recherche sur Internet avec femmes naturalistes, et bien les seules femmes qu'on croise sont celles qui s'occupent des plantes et des animaux, et rarement des femmes qu'on peut associer à Zola et au naturalisme. Alors au mieux, on est renvoyé des études qui nous parlent de la femme dans le roman naturaliste, où il est vrai, elle a occupé une place privilégiée dans les études de cas, mais peu de femmes, en tout cas, qui sont intégrées au mouvement ou qui sont perçues comme ayant joué un rôle important dans ce mouvement. Pourtant, un mouvement qui nous a laissé des portraits de femmes très intéressants, de femmes qui tournaient dans les milieux de l'art, justement. Mais je dirais les portraits les plus marquants sont souvent plutôt des portraits d'actrices, de prostituées. On pense à la fille Elisa, à Marthe de Wismans ou évidemment à la célèbre Nana de Zola. Donc la formule qu'a lancée Zola ne semble pas avoir généré beaucoup d'imitations parmi les romancières qui essayaient d'entrer dans le champ littéraire à cette époque-là. Alors c'est un point de vue cependant quand même à nuancer, donc si elles sont peu présentes dans l'histoire littéraire qui nous raconte le naturalisme, puisque si aucune femme ne s'est vraiment revendiquée comme naturaliste, plusieurs se sont engouffrées, on pourrait dire, dans la brèche qui a été ouverte par le mouvement pour sortir finalement de ce ghetto féminin où elles étaient enfermées et affranchir aussi leurs plumes des interdits qui pesaient sur elles. Et parfois, elles ont joué aussi sur la surenchère dans la transgression par rapport aux audaces des naturalistes. Alors, il faut dire que déjà, lire Zola, ça constituait pour une femme une sorte de transgression, car l'influence pernicieuse de la littérature sur le lectorat féminin, connu comme grand consommateur de fiction, a toujours été le cheval de bataille des gardiens de la morale, qui étaient soucieux de préserver leur pudeur. Et c'est d'ailleurs souvent au nom de la protection de ce lectorat, jugé sensible, jugé vulnérable, que la censure a mené ses plus féroces croisades. Et justement, à la fin du siècle, malgré une évolution de la loi, la répression s'est exercé avec constance sur de nombreux ouvrages qui attentaient aux bonnes mœurs, à la morale, lors de procès dont ont fait les frais d'ailleurs pas mal de petits naturalistes, comme Paul Adam par exemple avec Cher Moll, Paul Bontin avec Charlot s'amuse, connu comme le premier roman de la masturbation, Lucien Descaves avec Sous-Off, ou un belge, Camille Lemonnier aussi, dont tous ces auteurs qui virent leurs romans attaqués, taxés de pornographie et poursuivis. Alors, il faut cependant préciser que c'est justement sur le plan de la représentation de la sexualité que le tout montrer, tout dire des naturalistes a trouvé aussi ses limites. Alors même que c'était justement en se réclamant de ces audaces, de ces crudités, que les romanciers se targuèrent d'avoir accompli en fait un vrai progrès dans le dévoilement du réel. C'est la dernière limite, je dirais, dans ce travail de dévoilement du réel. Et comme l'a souligné Marc Angenoux dans un bel essai qui s'appelle « Le cru et le faisandé, sexe, discours social et littérature à la belle époque », je le cite, « Représenter une scène d'intimité sexuelle est impossible dans le roman du XIXe siècle. » Alors, c'est impossible, dit-il, pour des raisons de décence, de morale publique, de convenance, de crainte de la censure, mais aussi en raison d'une difficulté proprement littéraire, d'une difficulté lexicale à dire finalement ce type de scène, sans périphrase, sans ellipse et sans euphémisme. Et de cette ultime barrière sont d'ailleurs souvent rendues responsables les lectrices, qui auraient contribué, au dire des littérateurs, et notamment des naturalistes, à, je cite, « l'émasculation du roman », qui aurait été dégradée par le souci justement de ne pas offenser la pudeur de ces dames, de ces lectrices. Et c'est donc en fait aussi pour préserver le genre, pour préserver le roman d'une certaine dévaluation, si on veut, ou d'une féminisation vue comme une dévaluation du genre, que les romanciers naturalistes ont justement mis en avant la franchise, la brutalité de leur description, sans nécessairement aller toujours au bout de leur programme. Alors si ces audaces justement des romanciers naturalistes étaient conçues pour effaroucher précisément ce public féminin, avide soi-disant de douceur, d'élégance, de haute sphère, eh bien il y a eu quand même des femmes de lettres qui ont été des lectrices très attentives de Zola et qui ont su, selon des modalités diverses, profiter justement des avancées naturalistes, alors d'une façon tantôt assez discrète, tantôt d'une façon plus revendiquée. Pour une femme auteure, justement, s'éloigner ou refuser de s'aligner sur la doxa critique qui critique le naturalisme, qui est hostile au naturalisme, c'était une façon aussi de prendre position, de se mettre à l'écart, si on veut, de se distinguer, de sortir du lot, puisqu'en fait, en lisant une œuvre dont les sujets étaient censés les exclure, en participant au débat littéraire, en revendiquant aussi des audaces qui étaient perçues comme novatrices, eh bien les femmes auteurs se sont essayées en tout cas à une stratégie du scandale qui a été pour certaines pleinement payante. Comme l'a souligné Anne-Marie Thiès dans son essai sur le roman du quotidien, si au tournant du siècle elle n'est pas provocatrice, eh bien la femme de lettres doit se cantonner dans des genres subalternes, justement dans des positions subalternes aux marges du champ littéraire. Une provocation qui peut être purement d'ordre littéraire, mais qui est d'autant plus rentable et qui rencontre le succès quand elle s'assortit aussi d'un choix de vie un petit peu sulfureux ou assorti de comportements déviants. Alors des femmes ont joué aussi sur ce tableau-là. Un exemple, Rachid, par exemple, alors même si elle se défend dans les pages critiques qu'elle donne au Mercure de France d'apprécier Zola, bon, elle livre des articles extrêmement acerbes contre Zola, donc Rachid, c'est l'auteur de Monsieur Vénus, un roman qui a fait scandale à l'époque, qui a été poursuivi aussi, qui date de 1884, un roman un peu difficile à classer d'ailleurs, est-ce que c'est un roman, on l'appelait décadent, est-ce qu'il a par certains traits justement des dimensions naturalistes, c'est un roman un petit peu difficile à classer, mais en tout cas il est certain qu'il a fait scandale et que l'auteur a profité de ce scandale et a renouvelé sa formule, une formule qui marchait si bien, de façon assez durable. Rachid, elle aussi, s'est essayée finalement à la description du corps, à la description du désir, à la description de la sexualité sur le même terrain que les naturalistes, mais sans se revendiquer vraiment de leur influence esthétique ou de leur programme. Cependant, elle reconnaîtra avoir été, je la cite, saisie d'admiration à la lecture de l'Assommoir qui aurait agi sur elle comme un révélateur, lui laissant entrevoir la possibilité d'elle aussi faire une carrière dans les lettres. Quelques autres exemples. En 1893, en posant sa candidature pour devenir membre titulaire de la Société des gens de lettres, Jeanne de La Vaudère écrivit ses premières lettres à Zola, alors président de cette société. Il a reçu pas mal de lettres de femmes justement pour soutenir leur candidature. Et Jeanne de La Vaudère, elle aussi en 1895, a demandé à Zola la permission d'adapter pour la scène son récit pour une nuit d'amour, ce qui s'est fait avec un certain succès. peut aussi citer Georges de Peyrebrune, autre romancière assez oubliée aujourd'hui, très connue en son temps, qui a défendu Zola dans un journal, Le Réveil Périgourdin, en 1880. Et là, elle a vraiment cherché, en défendant Zola, à se distinguer, à se faire adouber, si on veut, par le maître, à se faire reconnaître par celui qui incarnait pour elle la modernité en termes romanesques. Et surtout, elle cherchait à se distinguer de l'image qui lui avait été collée, à savoir d'être la nouvelle George Sand. Donc là aussi, prendre parti pour Zola, c'était une façon pour elle de se détacher de cette image-là. Un mot aussi sur une romancière belge qui est bien présente dans le catalogue de la bibliothèque, c'est Neel Duff. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage vraiment à lire son œuvre. C'est une romancière qui a vécu en Belgique, mais qui est d'origine hollandaise, qui a la particularité d'être née dans un milieu extrêmement défavorisé. En fait, elle est née dans les milieux que dépeignait Zola dans ses romans. Elle a été conduite à la prostitution par sa situation misérable, et elle s'en est sortie en devenant modèle pour un peintre. Et à partir de là, elle a contracté un mariage qui lui a permis d'acquérir une certaine aisance. Et elle a raconté son expérience dans une trilogie qui a été rééditée aux éditions Labor, mais des éditions plus anciennes sont donc ici. Alors, Neel Duff, elle a justement été une lectrice aussi très attentive et critique de Zola, qui s'était, lui, attaché à décrire les milieux dont elle était issue. Autre femme d'origine belge, mais qui a aussi connu une carrière importante à Paris, c'est Mathilde Stevens, qui était l'épouse d'Arthur Stevens, marchand d'art, qui s'était entre autres occupé de Manet, belle-sœur donc des peintres Alfred et Joseph Stevens, dont on trouve pas mal d'œuvres dans les musées. Elle était aussi l'égérie d'un salon littéraire très actif, un Mille mots passants. Et elle, c'est dans le Gil Blas qu'elle a pris la défense de Zola, en marquant son admiration pour ses héroïnes, pour ses créations littéraires féminines. Et elle publia aussi à ses côtés, aux côtés de Zola, dans un recueil qui s'appelle Le Nouveau Décaméron, des récits assez poivrés, c'est le terme qu'utilise justement son ami Maupassant. Alors c'est dans ce genre poivré que s'est exprimé aussi Marc de Montifaux, qui est l'auteur que je vais vous présenter de façon un petit peu plus précise, puisque j'y ai consacré mes recherches, et que c'est un personnage quand même assez intéressant, assez particulier. Donc Marc de Montifaux, contrairement à ce que son nom indique, c'est bien une femme de lettres, elle est née au milieu du siècle, elle ne s'était pas contentée d'adopter un pseudonyme masculin, comme c'était assez courant pour les femmes à l'époque, elle portait aussi l'habit, ce qui choquait pas mal son entourage. C'est une femme de lettres extrêmement prolifique, on peut trouver pas mal de titres de toutes sortes. Elle était bibliophile aussi, ce qui est assez original pour une femme à l'époque, et elle fréquentait, encore une fois une originalité, la Bibliothèque nationale pour exhumer des textes érotiques du XVIIe et du XVIIIe siècle. Donc elle arpentait assez fièrement, en costume de garçon, les allées de la bibliothèque pour aller chercher des livres dans l'enfer de la bibliothèque, qui lui était d'ailleurs pas toujours communiqué à sa demande. Elle était aussi une critique d'art assez en avance sur son temps, parce qu'elle a défendu très tôt les impressionnistes, contre l'académisme, contre l'idéalisme, dans des textes assez intéressants, et elle a été une romancière aussi, qui s'est inscrite dans le roman, un roman revendiquant le réalisme, voire le naturalisme, qui lui a aussi coûté quelques procès assez retentissants. Enfin, elle a été journaliste, elle a créé elle-même une revue qui s'appelait L'Art moderne, et on la retrouve aussi dans les pages de La Fronde, un des premiers quotidiens féministes français. Alors aujourd'hui, ces livres sont bien oubliés et peuvent nous paraître inoffensifs aussi à la lecture, mais à son époque, c'était vraiment une sorte de personnage haut en couleur, mais aussi un peu suspect, un petit peu dérangeant, voire assez sulfureux. La justice, en tout cas, l'avait clairement dans le collimateur. Ses procès se sont suivis avec une régularité assez étonnante. Alors, est-ce que c'était par son anticléricalisme qui était assez affiché, par ses sympathies socialistes, par son féminisme, ou parce que, comme on l'en a soupçonné, elle assurait une sorte de commerce illicite de livres pornographiques entre la France et la Belgique. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. Il y a des rapports de police sur elle qu'on peut toujours consulter. Il y a évidemment des zones d'ombre. C'est difficile de répondre à ce type de questions sans rentrer vraiment dans le détail de sa biographie, qui reste obscure quand même par de nombreux aspects. Alors, je ne vais pas entrer justement dans les détails de cette biographie, juste quelques points de repère, quelques jalons pour comprendre un petit peu son parcours. En 1867, elle épouse un homme assez en vue dans le milieu littéraire, il s'appelle le comte de Quivogne, c'est le secrétaire d'Arsène Housset, donc le directeur de l'artiste, qui va lui ouvrir à la jeune femme les colonnes de sa revue pour qu'elle y écrive des textes sur l'art. Alors, 1870, là déjà, premier scandale, à peine publie-t-elle un livre qu'il fait déjà grand bruit. Ça s'appelle « Les courtisanes de l'Antiquité », Marie Magdeleine. C'est un livre qui se présente comme une histoire matérialiste et sceptique du catholicisme. Le livre a été publié en Belgique chez Lacroix, et en France, il a été considéré comme atteinte à la religion, et donc arrêté à la frontière et interdit. 1875, même de Montifo s'existe dans un genre moins dangereux, la critique d'art. Donc, avec le soutien d'Arsène Housset, elle va créer sa propre revue, L'Art moderne, qui n'aura qu'une existence assez brève, mais où elle va publier ses textes les plus audacieux sur l'art. Donc, des textes où elle va prendre parti pour défendre le réalisme contre le nu académique. Donc, des textes assez originaux. Et à ce moment-là, elle devient une personne aussi assez en vue dans son temps. Elle va tenir un salon aussi et recevoir pas mal de peintres et d'écrivains. L'année suivante, donc en 1876, elle va rééditer un de ses fameux ouvrages licencieux du XVIIe siècle qu'elle avait exhumé à la bibliothèque et qu'elle va présenter comme un travail tout à fait sérieux d'érudition avec appareil de notes, copieuse préface, qui ne va pas empêcher l'ouvrage d'être condamné lui aussi pour outrage à la morale par voie de presse. Elle va être condamnée à 500 francs d'amende et à une peine de 8 jours de prison. Ça va être le début, je dirais, de sa vocation, enfin pas de sa vocation, mais plutôt de sa réputation d'auteur sulfureux, voire de pornographe. 1877, elle ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'elle publie Les Vestales de l'Église. Vous imaginez le titre, là, nous, c'est un ouvrage assez critique envers la religion. Et là aussi, elle va être frappée d'une condamnation. Toute la presse va se déchaîner, le Figaro en tête. Elle va devenir une sorte de tête de turc dans certains journaux. Et se sentant victime d'une sorte de cabale, elle va s'enfuir en Belgique. Justement, elle va se réfugier à Bruxelles, où je dirais, la censure est moins forte, moins sévère, en tout cas, qu'en France à cette période-là. Alors en 1878, elle va entamer un cycle romanesque qu'elle va intituler en hommage à Balzac, la comédie contemporaine. Et le premier volume, qui s'appelle Madame du Croisy, bah, va la conduire une nouvelle fois devant les tribunaux. Ce qui aura un effet positif, puisque ça va vraiment faire grimper les ventes de l'ouvrage. Toute la presse va s'enflammer, va en parler, et du coup, ce livre va connaître un certain succès. Alors dans ce livre, parce qu'elle écrit toujours beaucoup de préfaces, de justifications, où elle s'explique sur ce qu'elle a voulu faire, elle dit qu'elle veut faire de son œuvre une croisade contre l'ordre moral et l'hypocrisie bourgeoise. Et elle réclame le droit de traiter, sans détour, je la cite, « en vertu du droit imprescriptible du romancier, les rouages les plus secrets, les emportements les plus exubérants de la passion, mais aussi l'inquiétude et le découragement de l'homme moderne pour l'exciter à la lutte contre l'horrible conspiration des bourgeois. » Je dirais qu'elle est scandaleuse sur deux, ou transgressive sur deux plans, puisqu'elle s'attaque notamment à des problèmes sociaux, à la religion et aussi donc au rapport entre hommes et femmes. Ensuite, elle va s'installer quelque temps en Belgique, et se faire un petit peu oublier jusqu'à la fin du siècle, même si elle continue à produire énormément de textes, de romans, mais qui sont, je dirais, entre guillemets, tout aussi choquants que les précédents, mais il faut croire que à ce moment-là, les autorités ont trouvé des auteurs plus intéressants pour exercer leur censure. En tout cas, elle va s'éteindre en 1912. On va retrouver assez active dans les colonnes donc, de ce journal féministe, La Fronde. Alors cette carrière de Marc de Montifo, elle est à la fois représentative des carrières de femmes de lettres de l'époque et atypique. Elle est représentative parce qu'elle va entrer dans le milieu des lettres grâce à son mari, aux relations de son mari, qui va l'introduire dans les milieux littéraires. Elle est polygraphe, donc comme beaucoup de femmes, elle va toucher à toutes sortes de genres littéraires. Elle va opérer plusieurs reconversions à cause justement des poursuites dont elle fera l'objet. Et elle joue aussi clairement sur cette stratégie du scandale. C'est un peu ambigu, évidemment, ce jeu-là, mais c'est clair qu'elle en a profité. Mais c'est aussi un auteur assez féminin, assez atypique pour son temps, puisqu'elle ne s'est pas cantonnée justement dans ces fameux créneaux féminins où les femmes pouvaient s'exprimer. Donc elle a touché à des sujets qui étaient vus comme interdits aux femmes, la représentation de la sexualité, et à des genres aussi qui étaient plutôt réservés aux hommes, l'histoire, l'érudition et le roman réaliste. Alors elle s'est aussi confrontée à la censure, mais ce qui est assez intéressant chez elle aussi, c'est qu'elle a fait de la censure la matière même, le sujet même de certains de ses récits. Et des récits dont elle va toujours souligner, à gros traits, je dirais, la portée transgressive aussi. On pourrait parler d'une double censure, une censure sur l'auteur et une censure sur la femme. Puisque au XIXe siècle, c'est une citation de l'une de ses multiples défenses face à la justice, je cite, « Il n'est pour la femme de lettres qu'une seule ressource, celle d'écrire à l'usage des couvents et autres asiles d'orthodoxie, des petits livres bien pieux et bien niais, lesquels ne sauraient porter aucun ombrage aux hommes bien pensants qui les liront et les jugeront. » Fin de citation. On peut parler aussi d'une censure sur sa vocation d'érudite. J'étais une femme, je ne devais pas me permettre d'être un archéologue, un critique, un bibliographe. Censure sur la romancière aussi, enfin, à laquelle il est interdit d'écrire à mot découvert, alors là c'est une périphrase assez délicieuse je trouve, je cite, l'endroit opposé à une certaine rotondité nommée en toutes lettres dans l'assommoir. Donc j'imagine que vous voyez de quoi il s'agit. Mais donc là en plus, elle se met directement en parallèle avec ce que fait Zola. Lui il peut, moi je ne peux pas. Donc... Alors, une censure qui va donc peser aussi sur l'expression, et qui va devenir dans l'œuvre de Madame de Montifoc une certaine part d'ironie d'ailleurs, autocensure pesant sur la parole de la femme justement, des femmes qui se trouvent bridées par la pudeur et qui aspirent à voir, je cite un de ses autres contes, à voir le monsieur sans son objet, trois petits points, qu'on ne prononce pas, en l'occurrence sans culotte. Voilà. Donc c'est une héroïne là justement qu'elle met en scène qui parle. Alors à plusieurs reprises, le nom de Marc de Montifoc a côtoyé le nom de Zola. Marc de Montifoc ayant donc été classé dans le rayon pornographe, son nom va servir à discréditer l'entreprise zolienne. Jules Clarty, par exemple, dans la presse en 1879, échaudé par les succès de Zola au théâtre, va dire la chose suivante, il va dénoncer le priapisme morbide de Zola, qui, je cite, n'est autre après tout que celui des romans de Marc de Montifoc. Et inversement, au moment où elle est conduite à défendre son œuvre devant la justice, c'est le nom de Zola qui va être invoqué pour dénoncer le caractère obscène, immoral de ses romans. On va jusqu'à affirmer, dans les journaux, que le naturalisme des premiers chefs de l'école n'est rien à côté du sien, qu'elle continue Zola. C'est le type de critique qu'on lui adresse. Alors, il faut noter que Zola, qui était justement lié par contrat avec les éditeurs de son livre sur Marie-Madeleine, va faire la publicité de son livre dans les pages du Gaulois et va par là même soulever l'indignation des lecteurs de ce journal. Un incident qui lui vaudra d'ailleurs une sorte de mise au ban du journal pour avoir apprécié la franchise de Marc de Montifoc, qui, je cite là l'article de Zola, « dédaignant les aimables périphrases de M. Renan, affirme carrément que l'étaillère juive a été l'amante de Jésus. » Il, Marc de Montifoc, ne peut croire à la conversion subite et radicale de Magdeleine, cette fille était de sang ardent, et si elle s'attacha au pas du jeune et beau rabbi, c'est qu'elle trouva à contenter en lui chair et cœur. Fin de citation. Ce qui n'a pas été apprécié par tous les lecteurs du Gaulois. Alors cette liberté, justement, de traiter tous les sujets, sans détour, sans périphrase, sans concession, justement, à la morale et à la censure, que revendiqueront justement les naturalismes comme un principe important de leur credo, Marc de Montifoc va le réclamer sans cesse, à corps et à cri, avec les conséquences judiciaires qu'on sait. Même si notre auteur avait quand même une attitude assez ambiguë vis-à-vis de Zola. Elle se plaint, par exemple, d'être poursuivie à cause des audaces qu'à lui, on lui permet, parce qu'il est un homme, et parce qu'il se réclame aussi d'un mouvement collectif dont il est le chef de file et le maître à penser. Marc de Montifoc va poser l'hypothèse suivante, les crudités que Zola se permet lui sont interdites parce que d'une part elle est une femme et d'autre part elle est une isolée, c'est-à-dire qu'elle n'appartient pas justement à un groupe littéraire, à un mouvement littéraire, n'a pas derrière elle tout l'arsenal théorique légitimant du mouvement qu'avait pu acquérir le naturalisme. Ce qui n'empêchera pas quand même de, je dirais, plagier quelques scènes aussi empruntées à des romans de Zola. Par exemple, le roman dont je vous parlais, Madame du Croisy, montre des scènes piquées à la curée de Zola. Et une sorte d'appel de ce roman de Zola auprès des femmes. Rachilde aussi, dans Les Hors Nature, a plagié la fameuse scène de la serre. Et Mathilde Serrao, une vériste italienne, elle aussi, elle a repris dans son roman Fantasia cette scène. Donc ce roman semble particulièrement avoir touché les femmes auteurs, qui se sont donc aussi attachées à une sorte de réécriture, parfois, de certains romans de Zola. Alors on retrouve dans les romans de Marc de Montifoc aussi des descriptions appuyées du corps féminin, nues de préférence, des relations amoureuses, et c'est certainement aussi cet aspect de sa littérature qui va lui valoir les multiples condamnations dont elle va faire l'objet. Alors cette représentation justement du nu féminin, qui l'intéresse d'ailleurs aussi en peinture à cette époque, a été vraiment l'un des défis auxquels elle s'est confrontée. Parce qu'elle a simplement voulu choquer le bourgeois en exposant un peu plus de chair que ses confrères, ou au contraire, par les libertés justement qu'elle cherchait à s'acquérir à ses risques et périls, était-ce une manière aussi pour elle de contester finalement aux naturalistes le monopole de disserter sur la physiologie féminine ? La représentation du corps, des passions physiques, semble avoir été pour elle l'enjeu de la modernité romanesque. Elle se revendique de Dumas, elle se revendique de Balzac. Elle reconnaît au premier le mérite d'avoir mis fin aux intrigues évanescentes et abstraites, je cite, où les héroïnes se gardent bien de froisser leurs blanches robes par des étreintes trop vives et où les amants se parlent en gens quintessentiels de savoir-vivre. Fin de citation. Et à l'instar du second, Balzac, elle projette, je cite, de regarder à la loupe les verrues et d'apprendre à quelles lois pathologiques se raccordent les instincts. Finalement, un programme qui était aussi celui des naturalistes un petit peu plus tard. Alors pour la romancière, la peinture réaliste de la passion amoureuse relève des droits imprescriptibles de l'intrigue romanesque. Et pour elle, renoncer à cette description c'est renoncer à l'écriture, tout simplement. C'est justement être condamné à l'insignifiance. C'est déjà un argument qui avait été avancé en son temps par Delphine de Girardin. Si on ne nous permet pas d'écrire justement ces sujets-là, pourquoi écrire finalement ? Toutes ces accusations qui vont être portées à son encontre, elle va les interpréter comme une espèce de complot du silence qui va sourdir autour d'elle. Par exemple, dans une de ses préfaces, elle se dépeint obligée de, je cite, « laisser en blanc dans le livre un espace de 200 feuillets vierges auquel le malheureux lecteur serait instamment prié de suppléer par le génie de son imagination. » Fin de citation. Donc elle serait en quelque sorte conduite, contrainte à écrire ses romans de femmes raillées par les naturalistes, baignées dans, je la cite encore, une mer sucrée d'idéalisme pour faire se pâmer les bourgeoises et les demoiselles. Et elle va même jusqu'à parfois interrompre son récit, sa narration, pour introduire des sortes de petits commentaires métanarratifs pour encadrer les passages les plus susceptibles de susciter l'ire des censeurs. Alors je vous en lis un qui est assez intéressant, parce que c'est quand même assez moderne de procéder à ce genre d'interruption de la narration. Donc ça vient du roman Madame du Croisy. Le 17 janvier, au matin, la porte de M. Aloysius Brann s'étant ouverte tout à coup. Ah pardon, une parenthèse. Hâtons-nous de dire que si la porte s'ouvrit ainsi, ce n'est pas parce qu'elle fut construite sans verrou, juste ciel. Gardez-vous de le croire, ce serait une véritable indécence d'introduire dans un roman une porte qui n'aurait point de verrou. Indécence de forme, indécence d'intention, indécence qui touche nécessairement aux mœurs. Ergo, pour avoir parlé d'une porte sans verrou et par conséquent outragé grandement la morale, condamne le dit publiciste à 500 francs d'amende et 3 mois de prison. Il y a de quoi glacer les cœurs les mieux trempés. Nous jurons donc que, si la porte s'était ouverte, c'est qu'elle était poussée par un vigoureux coup de pied. Nous affirmons aussi que ceux qui se trouvèrent en présence ne profitèrent point de cette soudaine ouverture pour se déshabiller, se mettre tout nu, entrer dans un bain. Il ne faudrait pas que le parquet se mît à suer d'horreur. Alors, ces romans regorgent justement de ce type d'intrusion d'auteur, un auteur qui se sent en fait obligé chaque fois de justifier chaque mot écrit, dénonçant ainsi l'absurdité de la censure et des dispositifs auxquels celle-ci soumet l'écriture. Alors, exaspéré par ce type d'accusation donc, qui pousse finalement sa littérature dans ses plus extrêmes retranchements, elle va achever sa défense en avançant une idée qui me semble aussi assez intéressante. Voilà ce qu'elle demande à ses juges. Elle se demande si l'esthétique du corps humain peut être exclue d'un roman et si un décret n'en permettra la discussion que pendant 3 mois de l'année à l'occasion de la critique des académies du salon. La critique d'art, donc. Là, on retrouve notre Magno Montifo, critique d'art, justement, qui semble avoir bénéficié de plus de liberté pour exprimer ses idées esthétiques dans ce genre paralittéraire de la critique d'art que dans le roman. Comme je vous l'ai dit, elle s'est montrée très tôt ouverte aux audaces des peintres de la vie moderne et elle a adopté, en fait, une position d'avant-garde comparable à celle de Zola, Huysmans, contre l'académisme et contre l'idéalisme. En 1874, à l'occasion de l'expo des impressionnistes chez Nadar, elle va louer Degas, Monet, Renoir, même Cézanne aussi, pour avoir balayé d'un coup de pinceau, je cite, la peinture honnête, laborieuse, faite pour l'éducation des mères de famille et des pensionnats de jeunes demoiselles. Fin de citation. Degas, elle l'apprécie tout particulièrement pour avoir justement osé dévoiler des nudités peu idéalisées, peu glorieuses, avoir révélé le corps féminin donc dans toute sa réalité, se démarquant justement des académies qui, je la cite, ressemblent aux figures orthopédiques dont on rectifie les défauts de taille ou de hanche à l'aide d'un appareil. Donc une position, par exemple, face aux Vénus qui s'étalaient sur les murs du salon, une position assez comparable à celle d'un Huysmans ou d'un Zola. En 1877, elle ira jusqu'à comparer les audaces formelles de ces peintres impressionnistes aux libertés, justement, prises par les naturalistes. Elle assimile au vocable de l'Assommoir le langage des impressionnistes. Elle affirme que les toiles révolutionnaires de ces derniers, je la cite, semblent venues pour engueuler la critique. Alors, sans la médiation, justement, de la peinture, poser sur le corps un regard naturaliste semble avoir exposé justement les femmes auteurs à une censure, sinon judiciaire, morale, esthétique, voire à une autocensure. Puisque objet du regard masculin, il aurait été assez difficile de venir occuper la position du voyeur, position volontiers adoptée par le narrateur naturaliste. Et rappelons d'ailleurs ici aussi que l'étude du nu d'après Modet a longtemps barré l'accès à la formation artistique des femmes. Ce cas de Madame de Montifo, que j'ai un petit peu approfondi, me semble intéressant, me semble invité justement à se poser la question de ce rapport des femmes au naturalisme, rapport parfois de fascination, répulsion à l'égard de ce naturalisme. L'autre question, c'est de savoir finalement si ça a été un phénomène spécifiquement français, que cette mise à l'écart des femmes du réalisme, du naturalisme, ou un phénomène qu'on peut retrouver dans d'autres littératures aussi. Ça pourrait être intéressant, dans une perspective comparatiste, d'examiner comment des femmes auteurs issues d'autres traditions nationales se sont positionnées sur le plan du roman, dans le domaine du roman, durant le dernier tiers du XIXe siècle. En Italie, face au vérisme, c'est vrai que je citais Mathilde Serrao, donc c'est une auteure napolitaine qui a écrit quand même des romans aussi assez audacieux. Elle était aussi, elle participe aussi à un grand quotidien de son temps. Elle est venue en France aussi, elle a eu un moment d'engouement aussi en France. Elle a écrit un roman qui s'appelle « Les ventres de Naples ». Là aussi, on pourrait se poser la question de est-ce qu'elle a été reconnue comme vériste ou également elle a occupé une position plutôt marginale par rapport au mouvement. C'est une question qui pourrait se poser aussi dans le cadre du naturalisme allemand. Et donc ce naturalisme qui se proposait d'être une sorte d'observatoire de la société de son temps pourrait constituer vis-à-vis de la condition des femmes, mais celle aussi plus particulière des femmes auteurs, un lieu d'observation stratégique pour comprendre l'étendue et les limites aussi de leur participation à la vie littéraire de leur temps, mais aussi pour interroger les possibilités d'expression qui étaient alors celles des femmes. En tout cas, ce serait, il me semble, une bonne raison pour venir lire et redécouvrir quelques romans oubliés qui ne sortent que trop rarement des rayons des bibliothèques. Je pense qu'ici, il y a de quoi déjà satisfaire sa curiosité. Je vous remercie.
Merci. Vous pourriez définir le naturalisme et nous donner sa durée, la durée de ce courant littéraire.
Pour la France, c'est vrai que généralement on donne la date de 1880, donc l'apparition du roman expérimental, les soirées de Médan. C'est le moment où Zola a codifié une formule qui existait peut-être déjà un petit peu avant. Et je dirais que jusqu'à la mort de Zola, la formule a continué, parce que c'était vraiment lui qui résumait. C'est vrai qu'il n'a pas laissé beaucoup de place à d'autres pour occuper une place importante dans le champ littéraire. Et puis le mouvement a vraiment essaimé de façon européenne, en Italie, en Allemagne, jusqu'aux États-Unis aussi. Il y a eu une sorte de deuxième vie du naturalisme avec des formules, je dirais, différentes. C'est l'héritage de Zola avec les commentaires. Mais même, il y a eu le fameux manifeste donc, qui a été publié des disciples, des manifestes des cinq contre Zola. Je ne me souviens plus exactement la date, je crois que c'est 1883 ou 84. C'est le moment où des romanciers vont se désolidariser de la formule. Je dirais que ça, c'est sur les premiers moments d'essoufflement de la formule naturaliste. Mais Zola va quand même rester
donc,
fidèle.
Donc on peut dire que c'est un observatoire, comme vous disiez tout à l'heure en fin de conférence, un observatoire des comportements.
Je pense. Je dirais que c'est intéressant de confronter aussi à la production des femmes auteurs l'image que le naturalisme produisait aussi des femmes à l'époque, quoi. Aussi un courant extrêmement critiqué, évidemment, qui a choqué à ses débuts, mais enfin, qui a quand même trouvé ses lecteurs, quoi. Hein. Donc, c'est pas Zola, était très lu, a été très vite respecté. C'est pas comme le symbolisme qui a été un mouvement. D'abord, c'était la poésie principalement, et donc c'est pas un mouvement qui a touché autant de lecteurs. Et c'était la formule romanesque qui a commencé aussi à être imitée, et c'est peut-être pas si étonnant que des femmes ont aussi gravité autour, sans toutefois vraiment s'en réclamer. D'ailleurs, manifestement, Zola s'en fichait pas mal des femmes auteurs qui auraient pu se dire ses disciples. Georges de Perbrune, là, qui a écrit son article pour le défendre, n'a pas suscité de grands remerciements de la part de Zola, qui finalement n'avait peut-être pas besoin de ces hommages-là, quoi. Et puis il faut dire que le roman aussi, c'était quand même le genre aussi un des genres avec le théâtre les plus rentables à l'époque. C'est logique aussi que les femmes qui aspiraient à devenir des femmes de lettres professionnelles se soient tournées vers ce genre-là. Parce que la poésie, il y en a eu pas mal aussi à la fin du siècle, mais c'était plutôt des femmes de l'aristocratie qui pratiquaient la poésie en amateur. Parce qu'évidemment, c'était un genre qui se vendait moins, mais qui était quelque part aussi plus haut dans l'échelle des valeurs littéraires. Mais le roman a attiré énormément de femmes. Hein. Puis alors, il y a tout ce domaine du roman populaire qui a été analysé par Anne-Marie Thiès. Là, c'était vraiment de la production industrielle. Hein.